franceinter.fr. Le journal Lionel Thompson, bonjour.
Bonjour. Inouï, drôle de nom pour un train. La SNCF va changer le nom de ses TGV classiques à partir du mois de juillet. Faut-il y voir autre chose qu'une simple opération marketing ? Réponse dans ce journal. Discussion difficile au G7 de Taormina sur le commerce et le climat. Le sommet prend fin dans moins d'une heure. Les militants du contre-G7 se préparent à manifester, eux, cet après-midi. Les agriculteurs qui se convertissent au bio, mécontents de la réduction de leurs aides. C'est notre droit de suite cette semaine avec comme invité Florent Gull, directeur de l'agence bio. Dans ce journal également, un point sur l'enquête après l'attentat de Manchester. La chaleur qui donna ce week-end de l'Ascension un air d'été. L'hôtel du libre-échange de Feydeau à la Comédie Française, prescription culture de Jacqueline Prétrose. Patty Cakes, un film qui a enchanté Corinne Pellissier à Cannes. Et le portrait de Franck Camas, speaker du bateau français qui affronte les Américains cet après-midi en ouverture de l'America's Cup.
France Inter.
À partir de juillet prochain, on ne dira plus « je vais prendre le TGV », mais « je vais prendre l'Inouï ». Après avoir lancé en 2013 les TGV à bas prix Ouigo, la SNCF va rebaptiser ses TGV classiques. La nouvelle appellation fera d'abord son apparition sur la ligne Paris-Bordeaux dès le 2 juillet, avant de s'étendre aux autres lignes, Inouï donc. Mais à part le nom, qu'est-ce qui change ? À vrai dire, pas grand-chose pour le moment. C'est surtout une opération de marketing. Pour quelle raison la SNCF éprouve le besoin de ce changement de nom, Béatrice Duguay ?
Et en fait, la SNCF décline une offre de service, sa marque Oui, déjà présente avec les Ouibus, les bus low cost, les Ouicar sur le marché du covoiturage et les Ouigo, ces TGV low cost. Inouï matérialise le service associé au parcours TGV classique désormais. À terme, les contrôleurs, les chefs de bord, tels qu'ils se présentent déjà dans les trains, ne seront plus chargés du contrôle, mais du service apporté pendant le voyage. Stratégie lisible pour Jean Vatrin Augouard, historien des marques.
Avant, c'était une marque produit. C'était le train. Maintenant, ça devient de plus en plus une marque service qui se décline à partir du oui, qui est une sonorité positive. On va de l'avant quand on dit oui. Voilà. Et donc, le oui deviendra une sorte de marque ombrelle. La mobilité a changé. Et les usages ont changé. D'où la nécessité pour une vieille marque comme la SNCF, bien évidemment, de s'adapter.
S'adapter à une concurrence déjà forte dans les offres de déplacement, la SNCF veut conquérir 15 millions de nouveaux passagers d'ici 2020. Encore faut-il tenir la promesse du Inouï, estime Jean-Marc Lehu, expert en marketing et stratégie des marques.
Aller dans une stratégie de communication où on utilise un terme, un nom commun qui est extraordinairement puissant, c'est Inouï. C'est tellement surprenant, c'est exceptionnel, c'est Inouï. Oui, c'est Inouï quand ça arrive à l'heure. C'est Inouï quand il n'y a pas de grève. C'est Inouï quand enfin j'ai pu voyager tranquillement.
Autrement dit, le terme Inouï est à double tranchant, d'autant que la logique de la marque ombrelle Oui n'est pas pleinement respectée. Ouibus, Ouicar, Ouigo, mais Inouï, illisible dans une offre marketing alphabétique.
Oui, et puis comme ça, pour les voyages nocturnes, on pourra dire qu'on prend le train d'Inouï. J'ai un peu honte. D'autres informations sur ce changement de nom du TGV sur notre site franceinter.fr. Ça plaisante beaucoup moins à Taormina, en Sicile, où se déroule depuis hier le sommet du G7, les pays les plus riches de la planète. Ça discute même très sérieusement avant la déclaration finale prévue vers 13h30. Si les dirigeants sont parvenus à s'entendre hier sur le terrorisme, notamment pour demander aux grands réseaux sociaux de mieux contrôler les messages et la propagande djihadiste sur Internet, c'est plus compliqué en revanche de s'entendre sur le commerce et le climat, deux dossiers sur lesquels pèsent les positions du nouveau président américain Donald Trump, plus protectionniste et climato-sceptique que son prédécesseur Barack Obama. L'Élysée vient d'ailleurs d'indiquer que le G7 ne reconnaîtrait l'absence de position commune avec les États-Unis sur cette question du climat. Comme lors de chaque sommet du G7 maintenant, il y a un contre-sommet altermondialiste, des opposants qui s'apprêtent à manifester cet après-midi. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Bertrand Galichet.
Une manifestation reléguée à plus de 5 km de la vieille ville de Taormina où sont réunis les chefs d'État ou de gouvernement. Les opposants au G7 se rassemblent à Giardini Naxos, station balnéaire huppée en contrebas de la cité fortifiée. Pour limiter les risques, les commerçants ont fermé boutique et certains d'entre eux ont barricadé leur devanture avec des planches. La police se prépare à encadrer plus de 3000 manifestants. Beaucoup de militants qui défileront tout à l'heure paraissent très remontés. Federico Galletta avocat et militant de la gauche radicale, co-organisateur du cortège.
La présence de Trump est encombrante à ce G7. Il réussit à empirer une situation qui déjà n'était pas radieuse. Pour ne citer qu'un exemple, alors qu'auparavant on essayait tant bien que mal de limiter les dommages à l'environnement, maintenant ce thème a disparu de l'agenda. Nous pensons que rien de positif ne sortira de ce G7, qu'il nous fera davantage reculer qu'avancer.
Des étudiants, des groupes de défense, des précaires et des associations de soutien aux migrants participeront également à la manifestation qui coïncidera avec la fin du sommet. Ces dernières heures, plusieurs dirigeants du G7 ont reconnu à demi-mot que les discussions butent sur la question du climat face aux États-Unis. S'ils renouvellent leur attachement à l'accord de Paris, les partenaires de Donald Trump hésitent à provoquer une fracture au sein de ce club des pays les plus riches. Taormina, Jérémy Tuile, Bertrand Galichet, France Inter.
Il était l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter et le cauchemar de générations de journalistes à cause de son nom imprononçable. Zbigniew Brzezinski, j'y suis arrivé, est mort hier soir à l'âge de 89 ans. Il a longtemps été une voix influente sur les questions de politique étrangère aux États-Unis. En Égypte, l'armée a mené un raid de représailles contre des camps djihadistes en Libye après l'attentat qui a fait au moins 28 morts hier, dont de nombreux enfants. L'attaque de bus qui transportait des pèlerins de la communauté chrétienne copte. Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux premières obsèques de victimes qui ont eu lieu dès ce matin. Attaque terroriste aussi ce matin en Afghanistan. 18 personnes au moins ont été tuées dans une attaque à la voiture piégée dans une station de bus de la ville de Khost, dans l'est du pays. À Manchester, la police continue de démanteler ce qu'elle considère comme une cellule djihadiste après l'attentat suicide de lundi soir. Deux personnes ont encore été arrêtées ce matin, ce qui porte à 11 au total les personnes toujours en garde à vue. Le point sur l'enquête avec notre envoyé spécial à Manchester, Sébastien Baer.
Cette fois, les deux arrestations ont eu lieu dans un quartier nord de Manchester. La police a fait exploser la porte d'une maison pour arrêter deux hommes de 20 et 22 ans, soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique à Salman Abedi. Désormais, 11 personnes sont en détention, 11 hommes, parmi lesquels des personnages clés du réseau djihadiste. Les autorités continuent à éplucher les images de vidéosurveillance. Elles analysent aussi les enregistrements de conversations téléphoniques et vérifient les mouvements d'argent sur les comptes du kamikaze. Dans l'appartement d'Abedi à Manchester, la police a découvert un atelier de fabrication de bombes artisanales et de grandes quantités d'explosifs. Le chef des services de renseignement évoque des avancées significatives et annonce d'autres interpellations. Alors que le niveau d'alerte est maintenu à son plus haut niveau, les autorités invitent les habitants à vivre normalement, à sortir, à s'amuser et à participer aux manifestations sportives et culturelles très nombreuses ce week-end. À Manchester, Sébastien Baer, France Inter.
En Israël, plusieurs centaines de prisonniers palestiniens qui observaient une grève de la faim depuis plus d'un mois ont cessé leur mouvement ce matin. Ils réclamaient une amélioration de leurs conditions de détention. Un accord a été conclu avec les autorités israéliennes. C'est aujourd'hui le début du Ramadan. Près d'1,5 milliard de musulmans dans le monde sont appelés à respecter ce mois de jeûne et de prière. Et puis pour les protestants de France, c'est une première. C'est une femme qui a été désignée hier à la tête de la principale église protestante française. La pasteur Emmanuelle Seybold a été désignée après une semaine de synode à Lille. Dans une agriculture traditionnelle en crise, l'agriculture bio qui se développe paraît parfois comme une planche de salut pour les agriculteurs. Ils sont de plus en plus nombreux à se convertir et pour cela ils ont accès à des aides octroyées par l'Union européenne mais complétées par les États et les régions. En Occitanie, une des régions les plus en pointe pour l'agriculture bio, ces agriculteurs en conversion sont en colère. C'est notre droit de suite cette semaine car les aides qui leur avaient été promises ont été fortement réduites. La faute au trop grand nombre d'agriculteurs qui se convertissent, les autorités régionales. Reportage de Stéphane Iglesis.
La région Occitanie est la première région bio de France et le Gers, le premier département pour l'agriculture biologique. Avec des primes de 300 euros à l'hectare, en 2015, les exploitants s'étaient lancés confiants dans une conversion. Jérémy Deray, 27 ans, est le secrétaire général des jeunes agriculteurs du Gers. Il refuse de payer l'incurie des politiques et des services de l'État.
Il y avait donc cette aide sur 5 ans de 300 euros à l'hectare. Et après coup, une fois qu'ils se sont fait un petit peu submerger par le nombre de conversions dans le département et en Occitanie, on a eu vraiment un retour en arrière clair, net et précis de la région. Donc là, on nous annonce qu'on va avoir plus que 100 hectares de notre conversion qui pourraient être aidés pour le passage en conversion de bio.
Nous avons été victimes de notre succès, précise Vincent Labarthe, vice-président en charge de l'agriculture pour la région.
Là où les autres sont à 7% de conversion bio, Nous sommes à 27%. Et nous avons beaucoup d'agriculteurs gersois, notamment sur nos productions céréalières, qui sont touchés par ces plafonds.
Oscar Coupé est président du collectif Ferme pour nos fermes, qui compte une centaine d'adhérents. Il a une exploitation de 286 hectares à La Romieux dans le Gers.
À partir du moment où vous avez plus de 100 hectares, eh ben on était en dessous de 100 hectares, vous êtes à 300 euros de l'hectare. Mais si vous avez 300 hectares, eh ben vous passez à 100 euros de l'hectare.
Les agriculteurs soulignent qu'en 2017, ils n'ont toujours pas touché le solde des aides politiques agricoles communes de 2015 et qu'en plus, la gestion informatique des dossiers depuis 2015, mais aussi en 2016, s'est faite en Inde pour le compte de l'État, ce qui a aggravé, selon eux, les délais de paiement. Toulouse, Stéphanie Glazis, France Inter.
Avec nous en direct au téléphone pour ce droit de suite, Florent Gull, directeur de l'Agence Bio, un organisme public qui promeut l'agriculture bio. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a choisi de parler de l'Occitanie parce que c'est une des régions en pointe pour le bio, mais ce problème des aides aux agriculteurs en conversion, il se pose dans d'autres régions de France, non ?
Oui, la situation de l'agriculture biologique en France aujourd'hui, elle est assez simple. D'abord, on a de plus en plus d'agriculteurs qui passent dans ce mode de production. 32 000 agriculteurs aujourd'hui en France, ça fait quand même une progression de 12% l'année dernière. Ensuite, un marché de 7 milliards d'euros en plein développement. Mais enfin, on a aussi à pointer le fait que tout ça, ça crée beaucoup d'emplois dans les territoires. Et pour autant, comme vous le dites, on a beaucoup de régions où cette aide aux agriculteurs bio aujourd'hui pose difficulté.
Alors, quand les autorités disent qu'au fond, c'est le trop grand nombre d'agriculteurs qui se convertissent, qui obligent à partager, à réduire ces aides, en quelque sorte que l'agriculture bio est victime de son succès, est-ce que c'est un argument que vous entendez ?
Ce qui est sûr, c'est que dans ce que je rappelais tout à l'heure, la demande des consommateurs français est importante, à la fois parce qu'ils veulent profiter de produits issus de l'agriculture biologique, ils sont très demandeurs de ces produits-là, mais aussi parce que tout le monde a conscience que ce développement de l'agriculture biologique dans les territoires crée de l'emploi, crée de l'activité économique de proximité. Donc la demande est forte, c'est vrai. Après, l'enjeu, c'est comment les autorités, comme vous le disiez tout à l'heure, françaises et régionales, peuvent répondre à cette demande.
Mais est-ce que ces aides publiques sont vraiment nécessaires ? Parce que le bio, vous le dites, est un secteur qui marche bien, qui est en développement. Au fond, est-ce que le crédit privé ne suffirait pas ?
Oui, vous avez raison. La vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui on a besoin d'aide publique pour se convertir en agriculture biologique. Il y a principalement deux raisons. D'une part, il faut couvrir le temps de ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire toute cette période où on travaille déjà en tant qu'agriculteur en bio avec déjà une baisse de rendement, une activité qui n'a pas la même rentabilité. Et pour autant, on continue à vendre ces produits pendant 2 à 3 ans, pendant ce temps de conversion, en conventionnel. Ils ne sont pas encore vendables au prix du bio. Et d'autre part, on a aussi à accompagner l'ensemble de la démarche économique parce qu'un agriculteur qui passe en bio, il doit retrouver de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs. Il a complètement à réorganiser son activité économique. C'est à ça que servent ces aides qui durent 5 ans, qu'on appelle les aides à la conversion à l'agriculture biologique.
Et donc pour vous, il faut maintenir ces aides, les augmenter. Et qui doit mettre la main à la poche ? Les régions, l'État, l'Europe ?
Alors, qui peut aider aujourd'hui ? Vous avez cité les régions, l'État, l'Europe, les agences de l'eau ont été beaucoup sollicitées et ont répondu présentes parce que finalement, l'enjeu écologique sur la qualité de l'eau est primordial dans ce mode d'agriculture. Donc, tout le monde doit se mobiliser. On doit arriver à faire travailler ensemble, en particulier l'État et les régions, pour trouver une solution, répondre à la demande des consommateurs et répondre aux motivations des agriculteurs.
Merci Florent Gull, directeur de l'Agence Bio. Manifestation prévue cet après-midi à La Baule à l'appel des commerçants et de plusieurs associations pour protester contre la concession de la plage de la commune à l'entreprise Veolia, une première en France dénoncée par les opposants comme une privatisation de la plage. Plus de détails sur notre site franceinter.fr. Les chauffeurs de camions citernes d'Île-de-France et de plusieurs dépôts de carburant de l'Ouest poursuivent, eux, leur grève illimitée entamée hier. Une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Pas de perturbations dans les stations-service pour le moment, selon l'Union française des industries pétrolière. C'est une occasion de passer un excellent moment à la Comédie-Française depuis cette semaine. Feydeau est à l'affiche avec l'Hôtel du Libre-Échange. La mise en scène est signée Isabelle Nanty. Les décors et les costumes sont de Christian Lacroix. C'est votre prescription culture cette semaine, Jacqueline Pétrose. Une pièce en 3 actes, 12 comédiens sur scène, 2h20 sans entracte, mais on ne voit pas le temps passer et c'est drôle.
Et que c'est bon de rire, Lionel, et on ne s'en prive pas. Comme souvent chez Fedo, il s'agit de s'éviter dans un endroit où l'on ne devrait pas être. Couple qui s'essaye à l'adultère, coïncidence fâcheuse, mensonge, quiproquo en tout genre, et amis encombrants.
C'est la surprise ! C'est la surprise !
Et bien sûr, Jacqueline, comme dans tout bon Fedo, les portes claquent.
Oui, et avec une précision rigoureuse, les décors sobres et raffinés permettent aux acteurs un jeu plein de fougue. Ils sont donc signés pour la première fois à la Comédie Française par Christian Lacroix.
Tout au début, avec Isabelle, on s'est demandé si on pouvait sortir un petit peu libre de toutes les notes, de la description du décor que Fedo fait. Et puis non, on peut pas, parce que chaque détail qu'il indique est nécessaire à l'action, y compris les pans coupés, les portes, la distance entre le cabinet de toilette, tout ça est inscrit et ça n'est pas gratuit. Il faut que ça soit solide, il faut que les portes claquent, donc les poignées, on en est, je pense, à la quatrième ou cinquième livraison de poignées. Ce qui me plaît là-dedans, c'est de, comme pour les costumes, c'est d'illustrer l'imaginaire des gens que j'ai en face, c'est plus que de la joie. Cet esprit de troupe m'apporte beaucoup, et c'est vrai.
Les comédies imparfaits laissent une part d'humanité dans la drôlerie de leurs personnages. La mise en scène est enlevée sur le fil de la folie, sans être hystérique. Et les costumes, aussi de Christian Lacroix, soulignent le tourbillon et la vie. Il y a dans cette pièce une élégance générale et une jubilation à jouer qui transporte le spectateur.
Après le théâtre, le cinéma, où on peut trouver la fraîcheur en ce week-end caniculaire.
Oui, et voir des films de la compétition à Cannes, par exemple, en particulier deux des films français, Rodin de Doyon avec Vincent Lindon, et L'amant double de François Ozon avec Jérémy Renier, et un hors compétition, Les fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin.
Cannes, on y revient justement avec un film qui n'est pas encore en salle, mais qui est une des bonnes surprises de cette fin de festival, Patty Cakes, de l'américain Jeremy Jasper, présenté hier en séance de clôture de la quinzaine des réalisateurs et en compétition pour la caméra d'or. L'histoire d'une jeune femme pas très gâtée par la vie qui veut devenir rappeuse. Un film positif qui vous a emballé, Corinne Pellissier.
Son meilleur ami l'appelle Patty Cakes ou Killer P. À 23 ans, Patricia n'a pas franchement ce que l'on appelle une vie de rêve. Coincée entre un job de serveuse, une mère névrosée, le cake du quartier qu'il a surnommé Dumbo à cause de ses kilos en trop. Alors elle rappe pour oublier et parce qu'un jour c'est sûr, elle quittera son village du New Jersey pour devenir une star du gangsta rap comme son idole Ozzy, un personnage tendre et revigorant incarné à l'écran par la comédienne Danielle McDonald.
On a tous des rêves que l'on réprime à cause du regard des autres. Mais quand on sait qui on est, alors on peut réussir, à condition de travailler dur. Dans ce métier, il faut se battre en permanence, il y a beaucoup de retours négatifs.
Un film plein d'espoir réalisé par une ancienne rockstar, Jeremy Jasper, qui rêvait depuis longtemps de se mettre au rap et de passer derrière une caméra.
Le rap, c'est vraiment mon premier amour. Quand j'avais 8 ans, Run DMC, c'était tout pour moi. Je vivais dans le New Jersey, j'étais blond et joufflu, et je passais mon temps à écrire des rimes ridicules et à courir les tremplins de jeunes talents.
Le récit d'une ascension courageuse et volontaire, remplie de tubes, cette Killer P nous a conquis. À Cannes, Corinne Pellissier, France Inter. The posse, the beats for the bells, and they are the letters of the state where we dwell.
De la Croisette aux Bermudes, où la Coupe de l'América devrait s'ouvrir pour de bon cet après-midi après un report hier pour cause de vent trop fort. 35e édition de la plus ancienne compétition de voile qui se déroule tous les 4 ans. Et ce sont les Français qui ouvriront le bal ce soir à 19h heure française. Groupama Team France affronte les tenants du titre américain. Autant dire que les Français ne sont pas favoris de cette manche. Mais ils comptent sur l'expérience de leur capitaine Franck Camas, un homme respecté dans le monde de la voile, Jérôme Val.
Il y a un signe qui ne trompe pas au pays de la Coupe de l'América dominée par les anglo-saxons, ce sont les hommages des skippers américains, néo-zélandais ou australiens. Au Frenchie de cette 35e édition, Franck Camas impose le respect. À 44 ans, il va participer à sa première Coupe de l'América, un rêve qu'il réalise enfin sous les couleurs françaises.
Ça me paraît le top du top dans la voile en général. C'est une compétition entre nations, c'est notre championnat du monde. C'est vrai sur une forme de voile qui est de la régate très intense, assez courte, avec des machines extraordinaires. Et en plus, ça procure évidemment des sensations extraordinaires.
La montagne, le piano, des études de mathématiques, Franck Camas n'était pas destiné à naviguer, mais la mer n'a jamais été loin. Enfant, il dévorait les livres de marins. Son palmarès s'est rapidement étoffé. Thomas Coville a navigué avec lui et pour le recordman du Tour du Monde en solitaire. Camas est l'homme de la situation sur cette Coupe de l'Amérique.
C'est le seul qui était capable de monter le projet qu'il a monté. Cet athlète, ce garçon, ce leader est une vraie pépite. C'est évident que Franck est la meilleure arme pour nous pour y aller.
Pour Camas et le défi français, c'est l'âge de la découverte. Mais dans 2 ans, pour la prochaine édition, celui que l'on a surnommé le petit Mozart de la voile n'aura qu'une obsession, ramener l'aiguillère d'argent, le trophée de la Coupe, en France. Les Bermudes, Jérôme Val, France Inter.
En rugby, défaite cruelle pour La Rochelle, battue 18-15 par Toulon grâce à un drop dans les dernières secondes de la première demi-finale du top 14 hier soir à Marseille. La deuxième demi-finale, toujours à Marseille, c'est cet après-midi à 18h entre le Racing 92 tenant du titre et Clermont. Et puis cette soirée riche en événements sportifs se poursuivra avec la finale de la Coupe de France de football à 21h au Stade de France. Paris Saint-Germain essayera de sauver sa saison plutôt ratée en conservant cette coupe face à Angers, qui de son côté rêve de la gagner pour la première fois.
Merci à vous Lionel Thompson, nous vous retrouvons ce soir pour le 19h.